Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Tosserie.
Plus d'un milliard de tonnes de nourriture, soit un tiers de la production mondiale, est gaspillée chaque année. Un rapport de la FAO s'indigne de ces chiffres alors que près d'un milliard d'êtres humains souffrent de la faim. L'œuvre d'Orient a eu la confirmation par les plus hautes autorités spirituelles de la liste des bâtiments chrétiens incendiés ou saccagés ces dernières semaines en Égypte par les frères musulmans ou des personnes qui leur sont proches. Nous irons également en France qui va accueillir plus de réfugiés syriens. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française. Et puis dans ce magazine également, nous parlerons d'un jeune volontaire suisse qui s'est envolé cette semaine pour un séjour de 3 mois à Madagascar. Il va installer 143 ordinateurs dans le diocèse malgache d'Antsirabe. Bienvenue dans ce magazine. Plus d'un milliard de tonnes de nourriture, soit un tiers de la production mondiale, est gaspillée chaque année pour un coût d'environ 750 milliards de dollars et avec un impact très négatif sur l'environnement. C'est ce qu'a déploré la FAO. 870 millions d'êtres humains sont affamés chaque jour. À titre d'exemple, chaque année, la nourriture produite sans être consommée engloutit un volume d'eau équivalent au débit annuel de la Volga en Russie et est responsable du rejet dans l'atmosphère de 3,3 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Dans la seule Asie industrialisée, région qui comprend la Chine, le Japon et la Corée du Sud, près de 200 kilos de légumes et céréales par habitant sont gaspillés chaque année en moyenne. Ce gaspillage massif de nourriture a une grande importance sur la sécurité alimentaire et la sécurité en général, a déploré José Graziano da Silva, le directeur général de la FAO. Alors qu'est-ce que cette organisation peut faire pour changer les choses? Écoutez les explications de Jeanne Maureen Jeunerand. Elle est chargée du plaidoyer souveraineté alimentaire au comité catholique contre la faim et pour le développement.
Ça fait des dizaines d'années que ce gaspillage et ces pertes alimentaires continuent. On ne voit pas d'amélioration de la tendance. Donc le rapport de la FAO est peut-être l'occasion justement pour les États d'enfin se mobiliser sur cette question primordiale pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire partout.
Quel constat vous pouvez faire sur ces gaspillages?
Pour nous, ce gaspillage alimentaire, il a tout d'abord une conséquence humaine très importante. Parce que face à ces plus de milliards de tonnes d'aliments gaspillés, il faut prendre en compte que le fait que 900 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde aujourd'hui, donc il y a une conséquence directe sur ces productions alimentaires qui finalement ne sont pas utilisées, alors même qu'on a des personnes qui souffrent de la faim. Et puis c'est des conséquences environnementales aussi très importantes, puisque c'est autant de productions finalement qui auront eu lieu, et donc de coûts d'impact pour les terres, pour l'environnement, l'eau, les sols, et qui n'auront pas d'utilité, j'ai envie de dire, dans leur utilisation après. Donc ça, c'est deux fortes conséquences qui ont des impacts à court terme, mais aussi à moyen et à long terme. Mais par contre, il faut bien comprendre que quand on parle de gaspillage et de pertes, ça ne se fait pas de manière uniforme sur la planète. Il y a vraiment deux grosses tendances qui se dégagent aujourd'hui. Dans les pays en voie de développement, donc dans les pays du Sud, on trouve beaucoup de pertes en amont de la chaîne, donc au moment de la production agricole, au moment de la récolte et du stockage, parce qu'on a un fort défaut d'infrastructures aujourd'hui pour s'assurer que les productions agricoles puissent être conservées pour ensuite être distribuées. Alors que dans les pays du Nord, les pays riches, comme on a en France ou en Europe, la perte se fait beaucoup plus en aval de la chaîne, c'est-à-dire au moment de la commercialisation, de la distribution et puis du consommateur qui ne va pas consommer les produits qu'il a dans son frigo. Donc il y a vraiment deux tendances très différentes selon le niveau de développement des pays. Et ces deux tendances très différentes doivent amener à des réponses très différentes pour s'assurer qu'on prenne bien le problème sur ces deux axes.
Quelles initiatives vous avez prises justement pour lutter contre ce gaspillage?
La FAO, dans son rapport, met beaucoup en avant l'action individuelle, c'est-à-dire ce que chacun peut faire à son niveau en modifiant ses habitudes alimentaires, son comportement de consommateur pour limiter le gaspillage. Alors c'est une action très importante, hein, bien sûr. L'action individuelle peut permettre une évolution. Mais nous, au CCFD, ce qu'on veut mettre en avant, c'est que c'est aujourd'hui une évolution de la société qu'on doit avoir, donc des comportements de manière générale et pas quelques avancées au niveau individuel. Et ça ne peut passer que par des décisions politiques qui permettent réellement de changer aujourd'hui notre modèle de production et de consommation. Donc c'est déjà développer des modèles agricoles qui soient plus respectueux de l'environnement et qui répondent mieux aux besoins locaux. Des modèles basés sur l'agriculture familiale, paysanne, l'agroécologie, pour répondre aux besoins locaux et non avoir cette idée de quelques régions qui pourraient être le grenier du monde, qui favorise aussi cette perte et ce gaspillage. Et puis aussi, il faut surtout développer de meilleures infrastructures dans les pays du Sud. Il y a beaucoup de pertes qui se font au moment de la production et de la récolte. Il faut développer des capacités de stockage dans ces pays pour permettre une meilleure conservation. Et c'est là où vraiment l'action doit être lancée le plus rapidement. Et puis il faut que, voilà, nous, dans les pays du Nord, on ait une réflexion sur notre modèle de consommation aujourd'hui, sur la surprofusion de produits dans nos magasins, et aussi toutes les règles et les normes qui rendent très difficile finalement la commercialisation, par exemple, d'une tomate qui ne serait pas tout à fait ronde, alors que pourtant, j'ai envie de dire, au niveau nutritif, elle a tous les apports nécessaires qu'une tomate qui serait mieux formée. Donc c'est vraiment, nous, c'est une réflexion sur notre modèle de consommation aujourd'hui qu'il faut qu'on commence à avoir arrivant en Europe. Et dans les pays du Sud, des vrais investissements pour soutenir les agriculteurs familiaux et le développement d'infrastructures pour permettre que tout le monde ait accès à cette alimentation qui se perd aujourd'hui.
La Vierge Marie était au centre de l'homélie du pape François ce jeudi matin lors de la messe célébrée à la maison Sainte-Marthe. Selon le pape, la douceur de Marie et l'humanité souffrante de Jésus sont les deux pôles vers lesquels un chrétien doit regarder pour réussir à vivre ce que l'évangile demande. Pour François, l'évangile est exigeant et demande des choses fortes à un chrétien. La capacité à pardonner, la magnanimité, l'amour pour ses ennemis, donner sans rien attendre en retour. Pour réussir à les mettre en pratique, il existe une seule manière, contempler la passion et l'humanité de Jésus et imiter l'attitude de sa mère, la Vierge Marie, a donc rappelé le pape François. Le programme de la visite du pape à Cagliari en Sardaigne, dimanche 22 septembre, a été publié par le bureau de presse du Vatican ce mercredi. Lors de ce déplacement, le Saint-Père ira à la rencontre de jeunes, des personnes démunies, de travailleurs et de détenus. Il est attendu à l'aéroport de Cagliari peu après 8h du matin. Juste après son arrivée, le pape rencontrera le monde du travail. Il prononcera alors un discours avant de saluer les autorités de Cagliari, puis les malades dans la basilique de Notre-Dame de Bonaria. Le Saint-Père célébrera ensuite la messe à 10h30, puis récitera la prière de l'Angélus. Il déjeunera avec les évêques de Sardaigne au sein du séminaire pontifical régional de Cagliari. Le pape rencontrera ensuite à 15h des pauvres et des détenus dans la cathédrale de Cagliari. Il s'entretiendra ensuite avec le monde de la culture au sein de la faculté pontificale de théologie de la Sardaigne. Enfin, à 17h, c'est avec les jeunes qu'il aura rendez-vous. Plus de précisions sur cette visite du pape en Sardaigne sur notre site internet www.radiovaticana.org. Le pape François, qui rencontrera également pour la première fois le clergé du diocèse de Rome, dont il est l'évêque, lundi 16 septembre en la basilique Saint-Jean de Latran. La rencontre débutera à 10h, peut-on lire dans un communiqué du vicariat. Elle s'adresse en particulier aux prêtres qui exercent leur ministère en paroisse, dans les aumôneries pour étudiants, les hôpitaux, les prisons ou encore le monde du travail. En préparation à cette rencontre, le Saint-Père a demandé à son vicaire, le cardinal Agostino Vallini, d'envoyer aux prêtres le texte d'un message qu'il avait transmis au clergé de son diocèse de Buenos Aires en 2008, après la réunion du conseil épiscopal latino-américain à Aparecida, au Brésil. La France va accueillir plus de réfugiés syriens, c'est ce qu'a déclaré ce jeudi Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, une réponse à l'appel lancé mercredi par plusieurs associations humanitaires. Selon l'Office français de protection de réfugiés apatrides, environ 700 Syriens ont déposé une demande d'asile en France depuis le début de l'année, un chiffre en augmentation, mais qui ne représente qu'une minorité des 2 millions de Syriens qui ont quitté leur pays, selon les chiffres du Haut-Commissariat aux réfugiés. Ce geste de la France, Amnesty International l'attendait depuis près de 2 ans, comme l'explique Jean-François Dubost, responsable du programme Personnes déracinées pour Amnesty International France.
Depuis le début de la crise en Syrie, nous avons fait cette demande aux autorités françaises d'accueillir des réfugiés bloqués dans les camps de réfugiés et nous n'avions aucune réponse ou des réponses négatives en provenance du ministère des Affaires étrangères ou du ministère de l'Intérieur français. Donc cette annonce est très bonne et nous l'accueillons évidemment positivement. Le ministre met en évidence pour choisir les réfugiés qu'il souhaiterait accueillir en France les liens qu'ils auraient avec d'éventuels membres de famille déjà présents en France. Et là, en revanche, c'est un critère qui est effectivement prévu au niveau international. Ce n'est pas le seul et nous pensons qu'il y a des personnes qui ont notamment été victimes de torture ou qui sont en danger dans les camps de réfugiés où elles sont bloquées actuellement qui nécessiteraient d'être accueillies également en France. Donc nous serons vigilants sur les critères mis en place par les autorités françaises.
Que reprochez-vous à la France ?
Cette situation, évidemment, n'est pas nouvelle. La décision de la France est très, très, très tardive. D'autres États, notamment l'Allemagne, avaient plusieurs mois déjà avant annoncé vouloir accueillir des réfugiés. Nous, nous le demandons depuis presque le début de la crise en Syrie, en tout cas à partir du moment où il y a eu un grand nombre de personnes qui ont franchi les frontières. Il était évident que ces fuites de personnes et de réfugiés n'allaient pas s'arrêter, compte tenu de la tournure que prenaient les événements. Il était également évident que les pays comme la Jordanie, la Turquie, l'Irak ou le Liban ne peuvent pas ou n'allait pas pouvoir accueillir indéfiniment un très grand nombre de personnes. Et là, d'ailleurs, on ne parle pas des 2 millions à accueillir en France, évidemment, mais juste des 10 000 qui ont été identifiés pour l'instant par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés comme ayant des besoins spécifiques. Donc le principal reproche, c'est d'avoir attendu. Parce que derrière, il y a des personnes qui sont en souffrance, en attente, en besoin de soins éventuellement et surtout de protection. Et que dans des cas comme ça, c'est pas acceptable en fait d'attendre aussi longtemps avant de se décider d'être solidaire.
Quelle est la situation des réfugiés syriens en France ?
Soit ils étaient déjà présents en France, soit ils ont réussi par leurs propres moyens à arriver en France. Dans les deux cas, lorsqu'ils demandent l'asile, elle est bonne, puisqu'en fait, l'Office français de protection des réfugiés apatrides reconnaît ces personnes-là comme étant des réfugiés à hauteur de 95%. Mais tout le problème, c'est de pouvoir arriver sur le territoire français. Jusqu'à présent, les personnes sont obligées de se débrouiller par leurs propres moyens.
Et qu'attendez-vous maintenant concrètement de la France et après plus globalement de l'Europe ?
Pour la France, c'est qu'elle fasse une annonce officielle, claire et précise sur le nombre de personnes, les conditions d'accueil et surtout les délais. Il ne faudrait pas que cette annonce ait été faite uniquement pour répondre à notre appel, qu'il y ait une réelle volonté, ce qui semble être le cas. Nous demandons aux États membres de l'Union européenne de prendre part en fait à cette solidarité avec la Jordanie, l'Irak, en ne laissant pas seuls accueillir tous les réfugiés, mais en réinstallant, en accueillant, même dans le cadre de programmes humanitaires, des réfugiés sur leur territoire, et puis de continuer d'aider financièrement les agences des Nations Unies à protéger ces réfugiés sur place. Nous approchons de la période d'hiver. Dans certaines régions, il peut être très dur et nous sommes réellement inquiets du sort de ces populations réfugiées. Près de la moitié des réfugiés sont des enfants et des femmes, donc plus particulièrement vulnérables. Donc nous appelons également à l'Union européenne à poursuivre son effort financier en faveur des réfugiés et des instances qui les assistent sur place.
L'œuvre d'Orient a eu la confirmation par les plus hautes autorités spirituelles de la liste des bâtiments chrétiens incendiés ou saccagés ces dernières semaines en Égypte par les frères musulmans ou des personnes qui leur sont proches. C'est ce que l'on peut lire sur le site internet de l'association. Son directeur général, Mgr Pascal Gollnisch, indique que cela constitue de toute évidence une vague de persécution de nature différente par rapport aux violences ponctuelles et discriminations dont les chrétiens faisaient l'objet. La position jusqu'au boutiste des extrémistes fait craindre la poursuite de ce mouvement antichrétien, souligne l'œuvre d'Orient, qui demande que toutes les conséquences soient tirées de ce nouvel état de fait, et en particulier que les autorités égyptiennes actuelles procèdent sans tarder à la protection et à la reconstruction des lieux chrétiens, églises, écoles, maisons de santé, habitations. Depuis le 14 août dernier, l'œuvre d'Orient relève dans un bilan très précis près de 40 églises pillées, saccagées, brûlées entièrement ou bombardées. Une vingtaine ont été attaquées par jets de pierre, cocktails Molotov, balles et ou ont été assiégées. 7 écoles et couvents ont également été brûlés alors que des dizaines de maisons, magasins, pharmacies et hôtels appartenant aux coptes ont été pillés. Nous avons joint le directeur général de l'œuvre d'Orient, Mgr Pascal Gollnisch.
Nous, à l'œuvre d'Orient, nous disions... Les chrétiens subissent des actes de violence ponctuels ou des discriminations. Mais nous ne parlions pas de persécution à proprement parler, parce que pour nous, en termes précis, une persécution suppose quelque chose de systématique et d'organisé. Mais là, les frères musulmans chassés du pouvoir ont exercé leurs représailles de manière ciblée contre des lieux chrétiens. Cela montre bien qu'il y a une visée fondamentaliste, islamiste et antichrétienne. Il y a eu des mots d'ordre qui ont été donnés de représailles contre les chrétiens. Devant ces événements, devant leur ampleur, il nous semble important de dire maintenant, il y a eu une vague de persécution, et cette vague de persécution et le fait des frères musulmans ou des gens qui leur sont proches.
Vous parlez de représailles, donc au-delà de ce moment précis, est-ce que vous craignez une montée de l'intégrisme religieux en Égypte ?
Nous craignons que les frères musulmans, s'il n'y a pas de réaction, d'une part des nouvelles autorités et d'autre part de l'opinion publique internationale, ne reproduisent quand bon leur semblera ce type d'action.
Les autorités égyptiennes ont annoncé ce mardi qu'elles allaient interdire de prêche 55 000 personnes, des imams non déclarés, justement pour freiner. Est-ce que c'est ce genre de mesure ou est-ce que c'est plutôt la défense des chrétiens que vous souhaitez ?
Je pense d'abord qu'il faut soutenir le mouvement de l'Égypte, que la population égyptienne, le mouvement que les manifestations en Égypte ont montré durant l'été, que la population égyptienne, dans sa grande majorité, donc essentiellement des musulmans, ne veulent pas d'un islam politique. Or, ce mouvement-là est capital, parce que c'est tout de même la première fois qu'un grand pays arabe dit « Nous, l'islam politique est fondamentaliste, on n'en veut pas ». Donc, dehors, les frères musulmans, on a compris qui vous étiez, on ne veut plus de vous, et on veut avoir un pays, certes la majorité musulmane, mais qui avance vers la démocratie. Le recteur d'Al-Azhar a dit qu'il voulait des autorités civiles en Égypte qui ne soient pas un pouvoir théocratique. Bon. Or, devant ce mouvement de la population, encore une fois massif, car les manifestations contre les frères musulmans ont été bien plus nombreuses que les manifestations contre le régime de Moubarak. Ce mouvement de la population n'a pas été soutenu par l'opinion internationale. Et cette mise à sac des lieux chrétiens par les frères musulmans aurait dû déclencher dans l'opinion internationale une émotion qui n'a pas été du tout déclenché. On a poussé des hurlements, on a réclamé la libération de Morsi, on a convoqué les ambassadeurs du nouveau pouvoir, on a fait des menaces de sanctions financières, au lieu de soutenir beaucoup plus fortement et beaucoup plus vite cette population égyptienne qui était en train de mettre dehors les frères musulmans. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est un, que l'opinion internationale prenne conscience de ce qu'ont fait les frères musulmans, des souffrances qui ont été imposées aux chrétiens, et aide les pouvoirs actuels à faire avancer l'Égypte dans la démocratie, et aide aussi les autorités actuelles à assurer la protection et la reconstruction des lieux de culte qui ont été détruits.
Direction maintenant Madagascar, où un jeune volontaire suisse s'est envolé cette semaine pour un séjour de 3 mois sur l'île. Il va installer 143 ordinateurs dans le diocèse malgache d'Antsirabe. L'équipement informatique a été récupéré par l'association suisse CH Madagascar. Il a été remis au petit et au grand séminaire d'Antsirabe, au lycée des enfants pauvres Saint-Martin. L'association CH Madagascar, reconnue d'utilité publique et notamment formée d'anciens missionnaires laïcs en Afrique, elle soutient financièrement depuis de nombreuses années divers projet pour le diocèse d'Antsirabe sur les hauts plateaux de Madagascar. Elle aide en particulier les écoles et les dispensaires de cette région, dépourvus de tout. Chaque année, elle envoie par container maritime du matériel de première nécessité ou inaccessible sur place, car trop cher. Jean-Pierre Cadou est le coordinateur de CH Madagascar. Cet ancien missionnaire laïque en Afrique explique le principe de ce projet. Il est interrogé par Audrey Radondi.
L'informatique apparaît comme un des moyens pour les prêtres, les étudiants en théologie, de bénéficier des informations qui concernent l'Église universelle. Il faut savoir que le diocèse d'Antsirabe prépare des prêtres pour l'Europe actuellement. L'informatique dans ce contexte est donc assez important pour eux.
Comment avez-vous récupéré ces ordinateurs ?
Ça fait bientôt 10 ans qu'on récupère toutes sortes de matériel, en particulier des ordinateurs. Donc on les récupère gratuitement ici en Suisse, s'adressant à des écoles, à des entreprises qui changent après 1 an, 2 ans, 3 ans leurs appareils. Et puis ensuite, il s'agit de les envoyer sur place. Alors on le fait par container maritime et pour assurer un certain suivi immédiat pour l'installation, donc de préparer les classes pour l'informatique. Donc.
Et quels sont les prochains projets de l'association ?
Nous travaillons actuellement pour le développement d'une école professionnelle pour les jeunes défavorisés de la ville d'Antsirabe. Nous avons créé des ateliers pour eux, menuiserie, mécanique, surtout agroalimentaire. C'est un projet important qui est lié avec d'autres projets de développement agricole dans la région. Il y a beaucoup à faire pour diversifier les possibilités agricoles.
Et c'est avec ce sujet que prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur notre site internet pour plus d'informations, www.radiovaticana.org, ainsi que sur notre page Facebook Radio Vatican en français.